Donc ici on est sur un endroit qui s'appelait le Château des Tours, qui était un plateau à peu près à ce niveau-là, qui était au-dessus du centre commercial Grand Littoral aujourd'hui, qui allait jusque là-bas. Une très très grande propriété avec des chevaux, enfin vous imaginez. Et donc cet endroit a été le dernier endroit libéré de Marseille. Il y avait effectivement une installation de la DCA allemande, la FLAC, qui était très bien placée ici pour les bombardements américains de 1944. Et donc c'est les dernières batailles qu'il y a eu ici, le dernier bastion qui s'est rendu et qui a dû aller dans la prison dont on parlait ce matin à plan de campagne, pour ce qui est des soldats allemands.
Donc les photos aériennes au sortir de la guerre, le terrain est ravagé avec des fossés anti-char. Alors ça explique, c'est derrière l'école, là il y a un terrain de foot et le mur au fond est comme ça. Ça c'était un mur anti-char ça. Vous voyez, on creuse pour pas que le char passe. Et les combats à la libération ont vraiment été sacrément salés. Et ça a tiré dans tous les coins, il y a eu des bombardements par-dessus. Et le terrain, en août 44, est ravagé, quoi, littéralement ravagé. Voilà. Ouais. Alors derrière, la Grande Pinède, je sais pas. Ce que je sais, c'est que sous le Château des Tours, le trou de Grand Littoral, il apparaît en 67, par contre. C'est pas les Allemands, 67. Les tuiliers voulaient la poche d'argile qui était sous une couche de calcaire. La couche de calcaire, on la voit très bien, c'est le mol Léon Gouret, qui est le plus grand mol du port, là où il y a les bateaux de croisière et la gare de croisière. Donc c'est le sol de dessous le Château des Tours, il est là. Et puis la poche d'argile, ça a été les dernières années de production des tuileries.
Fait que ce château, on l'a localisé, il est au-dessus du parking de Grand Littoral, à 30 mètres au-dessus de le Grand Littoral. Voilà, si vous imaginez le château dans le ciel, façon dessin animé japonais, et ben il est là-bas en l'air. Faudrait un jour montrer où est-ce qu'il pouvait être ce château. Donc ces terrains sont des terrains à l'abandon et même dangereux physiquement. Et les propriétaires vont le vendre à la commune. Pour, dans un premier temps, juste après la guerre, construire des logements sur et les quartiers détruits de Marseille, parce qu'il y en a eu pas mal, hein, et puis sur les îlots insalubres, qui est aussi une grande politique juste après-guerre. Donc on ne construira ici que dans les années, fin des années 60, et le premier ensemble qui est fini, c'est la Castellane. Il est terminé, lui, en 73. Et en même temps, notre cher ami Dunouette Segonza, grand architecte par le nom en tous les cas, construit ici une espèce de mini construction à la toulousaine en forme d'hexagone de Candilis, Wood et Josic, mais tout petit, alors que là-bas c'est une ville nouvelle. Ici c'est une vingtaine de bâtiments qui forment des hexagones, et avec le défaut que les hexagones ne se raccordent pas, et comme on est en crête, quand on est en crête à Marseille, on est sous le vent, comme en bateau. Donc, les espaces extérieurs sont inhabitables, d'autant qu'il met une école au milieu, je crois. Et donc, il va essayer de corriger ça avec des techniques plus ou moins scientifiques pour qu'on ait moins de vent ici. Mais ça sera tout de suite assez dur à habiter. La troisième partie, ce sera la bricade qui va se construire en même temps qu'on a ici. Il nous en reste des traces. Une cité de transit, voilà. Parce que ces trois cités sur les terrains du même propriétaire vendus à l'époque vont être là dans les années 60-70 pour résorber les bidonvilles. On va imaginer ces trois plans et destiner ces logements à la résorption du bidonville. À ceci près qu'en 62, c'est la fin de la guerre d'Algérie, et qu'on a des gens qui viennent d'Algérie en masse. Hein. Marseille va avoir 1 million de personnes. Oui. Mais tous ne resteront pas à Marseille. 1 million de personnes vont transiter par Marseille. Mais pour Marseille, ça va faire une génération démographique en plus. C'est-à-dire qu'à partir de 62, c'est comme s'il y avait eu doublement de la démographie marseillaise. Du coup, encore moins de logements qu'avant, etc., etc. Donc on va faire une très grosse opération. Ici, on a dit du noyer de Ségonzac avec ses formes hexagonales. Et pour les deux autres, d'abord des mélanges de mètres d'ouvrage. Au lieu d'avoir un seul mètre d'ouvrage pour faire 1250 logements pour ce qui est de la Castellane, on va en prendre 4. Et on va essayer de faire une gestion plus diversifiée que ce qui existait avant. Et comme on a très peur que 4 mètres d'ouvrage, ça fasse 4 architectes, 4 architectures, les architectes vont faire un projet unique et il va y avoir 4 gestions. Ce modèle de construction, à la fois en gestion et à la fois en forme urbaine, est beaucoup plus élaboré que ce qui se fait en général, qui sont un peu des objets posés sans rapport les uns avec les autres. arriver à des économies plus que substantielles. On va regrouper les trois opérations en une seule et donner tout ça à l'hydre grise des années 60-70 qui est l'OTH. L'OTH, pour en dire deux mots pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est un bureau d'études qui est lié à la Banque de Paris et Pays-Bas. Et la Banque de Paris et Pays-Bas, c'est quand l'État français veut négocier de l'argent avec l'étranger, il crée sa banque. Et cette banque permet d'avoir des échanges d'argent entre la France et l'étranger. Donc c'est une banque de niveau international. Et cette banque, quand elle voit à la reconstruction et après qu'il y a vraiment beaucoup d'argent intéressant, et même aiguillonné par l'État pour qu'il y ait un secteur privé de logement, va faire un espèce de gros bureau d'études qui est à peu près le symétrique de la SIC et de la SET, qui, elle, vient directement de la Caisse des dépôts. Donc c'est quelque chose de très puissant. Donc les ingénieurs de l'OTH vont, comme ils disent dans les textes, rationaliser les projets des architectes. C'est-à-dire on va avoir deux cellules au lieu de 35, et donc l'empilage qu'on connaît bien hein, aujourd'hui. Et on va avoir quelques niveaux en plus par rapport au... Parce qu'il faut bourrer un peu quand même. Ensemble. Donc on est vraiment sur quelque chose de très monopolistique, ça fait 4000, hein, puisque on appelait ça les 4000 de Marseille en référence aux 4000 de Paris, sauf que les 4000 de la région parisienne se sont faits sur des modèles plus anciens de construction. Et donc les architectes vont un peu rentrer dans la nasse de la machine à normaliser l'habitat, plus qu'ailleurs à Marseille, puisqu'il y avait quand même une politique de faire des opérations plus limitées. Et donc aujourd'hui, ben, on hérite de cette grosse machinerie. Donc ça, c'est pour un peu parler qu'est-ce qu'il y avait avant et comment tout ça s'est construit avec des formes légèrement différentes, mais qui sont prises par la même main, la même entreprise. Et là, ici, la pente, ce qu'elle a surtout marqué entre les trois cités, c'est la disjonction totale, quoi. Entre ici et à côté, c'est vrai, on peut rêver sur un plan d'une liaison piétonne. Et allez-y, les gars, descendez, vous allez voir comme c'est facile.